Je m'appelle Mathieu Madénian, je viens de Perpignan. Alors je sais ce qu'on dit de Perpignan. Perpignan, c'est un village de ploucs. C'est le genre de village où on couche avec sa cousine. Alors je vous arrête tout de suite, nous on s'aimait, d'accord?
Le journal inattendu.
Non mais tu sais, je me moque souvent des personnes âgées ou tu vois, c'était un peu mon faute commerce chez Drucker, mais j'ai réfléchi, je veux dire, les gens de mon âge ou plus âgés, on est des survivants. On est des Jedi, sans déconner.
12h30, 13h30.
Non mais sachez, on avait du mercure dans les dents, de l'amiante sur la tête, Dorothée à la télé, on est encore là.
Mathieu Madénian est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Mon neveu, le fils de ma sœur, 8 ans, il fait du vélo avec un casque. Nous, les gamins, à l'époque, à les casques, on les finissait à coups de cailloux.
Bonsoir, bonjour, Mathieu Madénian. Oui, c'est un peu tôt pour dire bonsoir.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être pour une heure le rédacteur en chef de ce journal inattendu entre deux représentations du spectacle familial que vous présentez les vendredis et samedis au Théâtre de l'Œuvre à Paris jusqu'à fin avril. Spectacle familial, j'imagine qu'on va faire connaissance avec votre famille qui vit toujours du côté de Perpignan,
ouais,
je crois bien.
Exact.
On va aussi accueillir votre invité, chanteur, musicien, compositeur, auteur, producteur, Vincent Baghian. Il sera là après 13h, donc il y aura sans doute quelques racines arméniennes dans l'air.
Je suis obligé de l'inviter, c'est pour ça, c'est le quota arménien.
C'est obligatoire.
Obligatoire.
On parlera aussi du Madénian d'avant Madénian, c'est-à-dire celui qui possède un diplôme en criminologie. Vous avez d'ailleurs souhaité un reportage sur l'affaire Grégory aujourd'hui, oui. 36 ans après le drame, ce sera dans quelques minutes avec les infos. Il y aura vos musiques, il y aura vos répliques cultes du cinéma qui vont rythmer cette heure qui va sans doute passer très vite, il y aura des surprises. Allez, sans perdre de temps, on commence par le commencement, c'est-à-dire par vous. Il s'agit de vous tirer le portrait, Mathieu Madénian.
D'accord. Alors, comment, on m'a dit une minute. Alors, oui, comment se présenter en une minute? J'y ai pensé toute la matinée en enchaînant ma routine quotidienne. Car tous les matins, pour moi, c'est qu'une succession de gestes et de mouvements parfaitement orchestrés et synchronisés. Donc, en général, je me lève doucement, comme d'habitude, par étapes. Je me redresse, tu vois, je m'assois sur le lit. Parce que si je me lève tout de suite, il me faut un palier de décompression, sinon je tombe par terre. Ça s'appelle avoir 43 ans. Et ensuite, je fais couler mon expresso. Alors, on est loin de l'ambiance de la pub. J'ai pas la gueule de Georges Clooney, d'accord? Et ma machine fait un boucan d'enfer. J'ai l'impression que des Colombiens sont en train de moudre le café dans mon séjour. Puis, j'ai allumé mon ordi. Et là, page blanche. 60 secondes pour se résumer. 60 secondes pour s'analyser, pour parler de soi. C'est impossible, en fait. Et j'ai compris pourquoi. Ça fait 3 spectacles que j'essaye justement de me présenter. 10 ans que je tente de mieux me connaître en montant sur les planches. Je pense que le jour où je pourrais me présenter en une minute, je ne me montrerai plus sur scène, je serai dans mon sud en train de jouer à la pétanque. Alors je reprendrai les mots de mon pote Oldelaf. Je fais comme je peux, je vis ma vie comme un jeu face au monde qui avance, moi je nage à contresens. Aujourd'hui, à défaut de me présenter en une minute, je vais juste essayer d'être présentable pendant 60.
C'est vrai qu'on avait une minute là pour vous découvrir, mais maintenant on a une heure pour aller plus loin. On a déjà eu le cérémonial du lever de Mathieu Madénian avec la machine à café. Ce qu'on fait, c'est, on commence par les infos, évidemment. L'actualité de ce samedi 15 février, elle est dominée par le premier décès en France d'un malade atteint du coronavirus. Il s'agit même du premier en dehors du continent asiatique. Cet homme de 80 ans, un touriste chinois, était en soins à l'hôpital Bichat. Les ténors de La République En Marche qui sont réunis en conclave pour tenter de désigner une nouvelle tête de liste à Paris après le retrait de Benjamin Griveaux. Alors pour l'instant, pas de fumée blanche. Une commission d'investiture est en tout cas prévue dans l'après-midi. Beaucoup de monde sur les routes, notamment en montagne. C'est le premier chassé-croisé des vacances d'hiver. Mais attention, parce qu'arrivé en haut, il y a un risque de mauvaise surprise. Dans de nombreuses stations, les remontées mécaniques fonctionnent au ralenti en raison d'une grève des saisonniers. Le football, la victoire de Monaco hier soir. Le PSG joue à Amiens à 17h30 sans ses stars, Neymar et Mbappé.
Espérons qu'ils perdent.
Ah voilà, c'est dit, ça commence.
Pardon.
Je pense qu'on va parler de l'OM pendant cette émission. Et puis le temps, Valérie Quintin, avec un nouveau coup de vent cet après-midi.
Oui, ça va commencer à souffler sur le nord-ouest. Alors dans l'intérieur des terres, on va avoir des rafales jusqu'à 70-80 km/h maximum. Sur les côtes, ça va dépoter à 110 km/h. Ça va concerner toutes les régions qui vont de la Bretagne et des Pays de Loire jusqu'au nord et aux Ardennes. Donc ça va concerner aussi l'Île-de-France et la Normandie. On va dans le même temps avoir des pluies, surtout en Bretagne et sur le Cotentin pour cet après-midi. Partout ailleurs, tout va très bien. Ça va être une très très belle journée ensoleillée, vraiment du plein grand et beau soleil. On a juste un petit peu de grisaille dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Les températures cet après-midi, 13 à Brest, à Rouen et Strasbourg, 14 à La Rochelle et Orléans, 16 à Paris, Toulon et Lyon, 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Bordeaux et 23, un beau 23 à Biarritz.
Bon ça c'est une météo sympa. Vous n'aurez pas besoin de de la faire à 13h, parce qu'à 13h, ce sera vous, monsieur Météo, Mathieu Madeleine.
Génial, j'adore. Je suis la Miss Météo.
Le journal inattendu sur RTL.
Un homme atteint du coronavirus est donc décédé en France. Il s'agit du premier décès enregistré en Europe et même le premier en dehors du continent asiatique. Il s'agit d'un touriste chinois de 80 ans. Il était, Sophie Jousselin, soigné à l'hôpital Bichat.
Oui, depuis le 25 janvier, ce touriste était arrivé en France 9 jours plus tôt en compagnie de sa fille. Tous les deux en provenance de la province de Hubei, berceau de l'épidémie. Ils avaient été hospitalisés tous les deux et l'état de santé du vieux monsieur s'était vite dégradé. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.
Son état s'était rapidement dégradé et il était depuis plusieurs jours dans un état critique, pris en charge en réanimation. Sa fille, également atteinte du Covid-19, a aussi été prise en charge à l'hôpital Bichat. Son état de santé n'inspire plus d'inquiétude et elle devrait pouvoir sortir prochainement.
Il reste encore 6 malades hospitalisés dont l'état de santé n'inspire pas d'inquiétude. 4 ex-malades sont guéris et rentrés chez eux. Le dernier en date est le médecin généraliste qui était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui est sorti hier. Un Français est aussi hospitalisé au Japon. Il fait partie des passagers du bateau de croisière Princess Diamond en quarantaine dans le port de Yokohama et sur lequel 285 cas de contamination ont été confirmés.
Oui, et d'ailleurs, à ce sujet, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient évacuer les Américains qui sont à bord de ce bateau de croisière. Là, la croisière ne s'amuse plus du tout. Hein.
Ah non, ça c'est clair.
280 personnes infectées. Sachez qu'en Chine, le bilan de l'épidémie a dépassé les 1500 morts. Des mesures de restriction ont été annoncées pour Pékin hier. Ça veut dire que toute personne qui arrive de l'extérieur dans la capitale chinoise doit s'auto-imposer une quarantaine de 2 semaines, que ce soit à domicile ou à l'hôtel, et cela sous peine de sanctions. Ça vous fait peur, ce virus, ou alors vous regardez ça de très loin?
Ah non, c'est flippant. Enfin, je pense que c'est un truc qui n'est pas très rassurant, ça c'est sûr. Non, oui, ça c'est... En plus, bon, là vous dites les titres un peu tristes. Moi, derrière, je dois faire marrer.
Non, mais c'est pas une obligation,
Mais oui, ça peut pas rendre heureux, ça c'est sûr.
On va parler de politique, parce qu'à La République En Marche, après la sidération... Ah, voilà, je sens que vous allez...
Qu'est-ce que vous pensez? J'ai pas de sextape, moi, j'ai rien fait. Hein.
Après la sidération, place aux interrogations. L'interrogation, c'est de savoir qui va succéder à Benjamin Griveaux, qui s'est retiré de la course à la mairie de Paris hier matin, évidemment, emporté par cette affaire de la diffusion sur les réseaux
sociaux. Rocco Siffredi, je sais pas.
Peut-être, on peut lui proposer. En tout cas, je ne sais pas s'il est à La République En Marche. L'idée, c'est que ce soit quand même un marcheur qui reprennent le flambeau. On est à 4 semaines du premier tour des municipales. Et pour l'instant, c'est vrai qu'en dehors de l'ancien ministre Mounir Majoubi, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon. Des réunions sont prévues toute la journée au siège du parti. Mourad Jabari, vous êtes sur place, bonjour.
Bonjour.
Et l'objectif, c'est d'avoir un candidat pour lundi.
Oui, et donc il faut faire vite, très vite. Une première réunion se déroule en ce moment au QG du parti présidentiel. Une réunion que l'on pourrait appeler de crise. Réunis autour de la table les cadres du parti, les maires d'arrondissement tête de liste. Tout cela dirigé par le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, qui accuse encore le coup ce matin.
Ce qui s'est passé hier, c'était une déflagration dans notre campagne. Mais ce que j'ai vu toute la journée d'hier, c'est que les marcheurs sont décidés à porter un projet de changement pour Paris. Et c'est ce qu'on va continuer à travailler aujourd'hui pour être en capacité de proposer les meilleures solutions.
Sauf que les solutions ne sont pas nombreuses, c'est un vrai casse-tête. Le député de Paris, Mounir Majoubi, que l'on a vu ce matin, aimerait se lancer, mais il n'est pas vraiment désiré. Agnès Buzyn est désirée, mais ne souhaite pas y aller. Marlène Schiappa a poliment décliné et un rapprochement avec Cédric Villani est presque inenvisageable. Un bureau exécutif sera organisé en fin de journée pour faire un état des lieux, un point d'étape avec les instances du mouvement. L'objectif est de présenter un candidat, un successeur à Benjamin Griveaux avant lundi soir au plus tard. Donc les discussions se poursuivent et quelle que soit la solution trouvée, elle sera validée en coulisses par le président lui-même, Emmanuel Macron.
Voilà, merci Mourad Jabari pour RTL au siège de La République En Marche. Sachez que pour l'instant, aucune plainte n'a encore été déposée par l'avocat de Benjamin Griveaux qui souhaite le faire, en tout cas c'est ce qu'il a dit, pour violation de la vie privée à l'encontre de cet activiste russe réfugié en France, Piotr Pavlinsky. quand vous avez entendu ça, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent voilà, finalement, c'est une atteinte à la démocratie, cette histoire, c'est du privé, c'est sa vie privée.
Bah, c'est du privé, ouais. C'est la vie privée. Je vois pas en quoi. En tout cas, son slogan, c'était Paris m'habite, son slogan. Donc là, au moins, enfin, un politique qui est en adéquation avec.
Ouais, ça commence bien. On parlait donc de celui qui a mis cette vidéo en ligne, hein, ce russe réfugié en France. Eh bien, on peut quand même retenir cette petite phrase d'Emmanuel Macron. C'était tout à l'heure à Munich. Emmanuel Macron participe à un sommet sur la sécurité. Il a été interrogé par un journaliste américain sur la menace russe. Et le président, qui a pris soin de ne pas faire directement de lien avec l'affaire Griveaux, a dit cette petite phrase sur les cyberattaques venant de Russie.
Je pense que la Russie continuera à essayer de déstabiliser. Alors, parfois ce sont les services publics, dirais-je, parfois ce sont des acteurs privés. Nous, en France, nous n'avons pas pour habitude de rendre public, quand on arrive à tracer d'où vient l'attaque. On n'a jamais rendu public. Par contre, évidemment, on enquête et on a un dialogue avec les pays quand on sait que ça vient de chez eux. Donc je pense que la Russie continuera d'être un acteur extrêmement agressif sur ce sujet dans les prochains mois et les prochaines années. Et d'ailleurs, dans toutes les élections, elle cherchera à avoir des stratégies de la sorte, où elle aura des acteurs qui le feront. Parce que la vérité, c'est que nous avons très peu d'anticorps face à ces attaques.
Emmanuel Macron à Munich, donc, où il participe à la conférence sur la sécurité. On marque une courte pause, et puis dans un instant, on sera sur la route des vacances, avec, pour ceux qui arrivent au sommet, parfois une mauvaise surprise.
Le journal inattendu sur RTL, avec Mathieu Madénian et Vincent Parisot.
Pas de vacances pour vous, hein, Mathieu Madénian?
Non.
Moi, de l'œuvre.
Ouais.
Sinon, vous aimez skier?
J'aime bien skier. Enfin, j'aime bien. Je préfère la raclette. Je préfère tout ce qu'il y a autour du ski. Fond du Savoyard, des raclettes, en fait. Ouais, moi, le ski, ça me saoule.
Et le vin chaud aussi.
Exactement.
Qui va avec. Bah, il y en a qui aiment aussi le ski pour le ski. Ils sont peut-être partis ou alors ils repartent parce que c'est le premier chassé-croisé des vacances d'hiver, journée rouge dans le sens des départs. On prend la température sur l'une des dernières aires d'autoroute avant l'arrivée sur les pistes. C'est avant Chambéry, sur la 43, l'aire du Granier, Nerissa et Mani.
Eh bien, à l'heure du déjeuner, la circulation est plutôt dense sur la 43. Comptez 1h30 pour faire Lyon-Chambéry contre 50 minutes habituellement. Alors, les skieurs prennent leur mal en patience ici sur l'aire du Granier. Le soleil rayonne face aux montagnes. Un dernier arrêt rapide pour ces Bretons.
Pause pipi, pause café, c'est reparti.
Direction Val Thorens pour Tugdal et sa famille.
Ça faisait 3 ans qu'on n'était pas venu. Ça coûte quand même un certain tarif, hein. Je crois que c'est les vacances qui coûtent le plus cher.
Henri, le grand-père, porte déjà son pantalon de ski.
Pourquoi j'ai mis ça? Bah, tout simplement, ça fait une tenue de moins à mettre dans le sac. On va faire un peu de raquette, j'ai passé l'âge de skier. Le ski, c'est bien pour les adultes qui travaillent, comme ça ils ont un arrêt de travail après le ski, c'est formidable quoi.
Pour faire patienter les enfants, il y a une aire de jeu. Brigitte court après ses 3 bambins en boots. Cette Lilloise a déjà prévu des vacances sportives.
Oui, on est dans un chalet, on est 30 personnes, donc il y a toujours de quoi faire, il y a toujours de l'animation et de la bonne humeur, on va dire.
Et pour les petites, le programme.
J'aime bien faire le ski, des boulins de neige, de la luge.
Comme... c'est chercher la Reine des Neiges, hein. On l'a toujours pas trouvé, hein.
Non. Et on va aussi chercher le Père Noël.
Voilà, donc vous l'entendez, un beau challenge pour cette semaine au ski.
Bon, le Père Noël, ça sera pas facile, parce que normalement, il est reparti.
Hein. Ah oui, c'est ça.
Ça sera peut-être pas facile non plus de prendre le télésiège, parce que les remontées mécaniques fonctionnent au ralenti dans de nombreuses stations. Ça vous fait rire.
Non, je pense au gars qui a galéré dans le métro pendant un mois. Il se dit, bon, allez, je vais aller me détendre au ski. Et alors, il n'y a plus de télésiège. Le mec, il maudit.
C'est pas bien de rire du malheur des autres, mais parfois, ça fait du bien. Oui, les saisonniers de la montagne sont en grève. Ils dénoncent le nouveau mode de calcul de leur assurance chômage. Le sport, le foot. Monaco s'est rapproché du podium en allant gagner à Montpellier. Face à Montpellier, c'était à Monaco, 1-0. 17h30, le PSG jouera à Amiens sans Neymar et Mbappé. Et là, vous avez dit, j'espère qu'ils vont perdre.
Mais oui, mais je suis marseillais, donc c'est normal.
Je sais bien.
On n'a plus que ça.
On est à 3 jours du match de Ligue des Champions. Alors pour Marseille, ce sera dimanche soir. Lille-Marseille, que vous regarderez.
Ah, chez moi, c'est sûr.
Madénian. Hier soir, vous n'avez pas pu regarder les Victoires de la Musique parce que vous étiez sur scène.
Ouais.
Sachez qu'Alain Souchon a obtenu la récompense pour l'album de l'année M50s, artiste masculin Philippe Catherine. Et puis chez les dames... Artiste féminine
c'est
de
pas
l'année.
Souchon, ça.
Non, ça
d'accord.
C'est pas
Souchon. Souchon, il a changé de voix, Souchon.
Clara Luciani.
Ah oui, d'accord.
Oui, vous connaissez, non?
Oui,
2 victoires en 2 ans pour Clara Luciani, plus de 150 000 albums vendus. Et maintenant.
Le reportage inattendu.
que vous nous avez demandé, Mathieu Madénian, sur l'affaire Grégory, parce que vous avez fait des études de criminologie.
Oui, après mes études de droit, j'ai prolongé, j'ai fait 2 ans de criminaux. Ouais.
Et pourquoi vous êtes retrouvé sur scène à nous faire rire alors?
Bah, en fait, après mes études, je me suis accordé une année de césure, en fait, une année sabbatique. Alors, il y en a qui partent faire le tour du monde. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais monter à Paris pour m'amuser pendant un an sur scène. Et je m'aperçois que cette année sabbatique dure depuis maintenant presque 15-20 ans. Quoi. Ouais,
mais la criminologie, ça vous passionne toujours?
Ah, mais je suis passionné par ça. Ouais. Tous mes potes, ils bossent dans le droit, ils sont juges, procureurs, avocats. Ouais. Donc je suis baigné là-dedans, ouais. J'adore.
Et vous nous avez demandé donc ce reportage sur l'affaire Grégory depuis que la garde à vue de Muriel Boll a été récemment annulée par la cour d'appel. Alors on en est où, Cindy Hubert?
Eh bien aujourd'hui, ce dossier montagne est devenu un gruyère puisque la cour d'appel a décidé d'annuler en janvier dernier la garde à vue de Muriel Boll, sa garde à vue de l'époque en 84, quand elle accuse son beau-frère Bernard Laroche d'avoir kidnappé le petit Grégory. Cette audition doit disparaître car la jeune fille a dû répondre aux gendarmes sans avocat alors qu'elle fêtait tout juste ses 15 ans. Aujourd'hui encore, ces quelques heures continuent de la hanter.
Je fais des cauchemars toutes les nuits. J'y dors, c'est 2 ou 3 heures par nuit. On m'a jeté en prison, on m'a fait passer pour un monstre, pour une tueuse d'enfants, que je ne suis pas. Je vais me battre pour moi, pour mes enfants surtout. Puis là, il y en a marre, il y en a assez de faire passer pour la personne que je ne suis pas.
La justice doit donc dire adieu à une pièce du puzzle, mais pas que, puisque plus d'une centaine de procès-verbaux font référence à cette garde à vue. Toutes ces pièces doivent disparaître, comme si ce dossier n'était pas déjà assez maudit. Mais la justice n'a pas fini son travail. Un juge d'instruction est toujours nommé à Dijon, déterminé à savoir qui a tué le petit Grégory. Il peut très bien décider de mettre à nouveau Muriel Boll en examen, ou les époux Jacob, le grand-oncle et la grande-tante de l'enfant. Et pendant ce temps-là, les corbeaux planent toujours sur la Vologne. Netflix a diffusé en novembre un documentaire sur l'affaire. Et voilà que des milliers de personnes se rêvent à nouveau en enquêteurs. Certains toujours persuadés que Muriel Boll cache la vérité. La traque reprend, soupire son avocat Maître Tessonnière.
Il y a à nouveau une espèce de campagne. Alors sur les réseaux sociaux, des lettres anonymes que ma cliente reçoit. Elle est d'ailleurs allée récemment à la gendarmerie de Bruyères, ce qui est courageux de sa part, parce qu'on te dit ce qui s'était passé, pour déposer plainte à la suite des lettres qu'elle a reçues, à la suite finalement du documentaire Netflix qui réactive un petit peu toutes ces fausses pistes. Ça a réactivé un petit peu la folie des faibles d'esprit.
Je vous laisse passer les fêtes, mais il n'y en aura pas d'autres. En 2020, vous passerez aux aveux, dit une de ces lettres. Les parents du petit Grégory, eux, ne veulent plus parler. Ils tentent de protéger leurs 3 enfants nés depuis l'affaire. Mais Christine et Jean-Marie Villemin l'ont fait savoir. Ils n'abandonneront jamais l'espoir de connaître un jour la vérité.
Un reportage de Cindy Hubert. Elle vous passionne toujours, cette affaire?
Oui, parce qu'il y a tout là-dedans. Si elle avait eu lieu aujourd'hui, en 2 jours, on aurait trouvé le coupable, avec les progrès de la criminologie, de la science. Et puis, moi, j'écris sur la famille en ce moment, et c'est une histoire familiale, en fait. C'est à la base, c'est juste un canapé. Les mecs, ils étaient jaloux d'un canapé en cuir. Non, mais ça paraît dingue. Et puis, même l'histoire d'amour qu'il y a derrière. Le couple Villemin qui sont restés ensemble, soudés, qui ont refait une famille, qui ont recommencé. Je trouve que c'est une des plus belles histoires d'amour que je connaisse actuellement, quoi. Quand on regarde ce reportage, on se dit, mais c'est incroyable de rester soudé et de traverser des épreuves comme ça. Je trouve que c'est ça, en fait, l'amour pour moi, c'est ça. Ouais, ouais.
Allez, courte pause. L'amour, c'est ça, nous dit Mathieu Madénian. La famille.
On dirait du Bruel.
L'amour, c'est ça.
Et la famille, alors, dans tout ça? Il va nous en dire quelques mots parce que son spectacle familial, c'est en ce moment au Théâtre de l'Œuvre. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL, avec Mathieu Madénian et Vincent Parisot.
On a loué une maison, pas très loin d'Avignon, un vieux Polonais qui cherchait une mine d'or. Il faisait bonder l'aurore à regarder le ciel dans un fauteuil en toile. Et les poules imbéciles et le coq d'opéra, quand le café était prêt, une fenêtre s'ouvrait. La mère bonne humeur commentait d'un de ses rêves. J'ai les pieds gelés, mais je me souviens du mois d'août 75. Mistral soufflé sur la plaine,
oh là 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 là.
Sur le toit, en regardant les étoiles, y avait rien
Ah, ça me fait vraiment plaisir ce premier choix musical pour Charlie Lee Couture qui avait fait d'ailleurs son journal inattendu il y a quelques temps ici même. Et puis cette chanson qui est un petit bijou.
Mais c'est génial. Quand on écrit des spectacles, on est bercé par des musiques ou des chansons. Et quand j'ai écrit ce spectacle familial, j'écoutais du Jonas et j'écoutais du Charlie Lee Couture. Je la trouve tellement belle cette chanson.
Ça s'écoute comme on regarde une BD ou comme on lit.
C'est une histoire. C'est comme Aznavour, c'est comme Jonas, c'est comme ces gens-là ne chantent pas, ils racontent des histoires en fait. Mmh. C'est juste des histoires. On a le début, on a la fin. C'est des génies.
Extrait de l'album Pochette Surprise en 1981. Vous aviez 5-6 ans en 81.
Oh mince.
Vous en souvenez?
De mes 5 ans, 5-6 ans, oui. Je devais. Oui. 5-6 ans. Qu'est-ce que je foutais 5-6 ans? Bah, je devais aller tuer des fourmis dans les vignes derrière chez moi. C'est ma passion et je jouais au foot avec mon père.
Ah tiens, nous y voilà. Parce que vous présentez donc un spectacle familial jusqu'au 25 avril au Théâtre de l'Œuvre à Paris. C'est les vendredis et les samedis. Spectacle familial parce que vous parlez de la famille, hein, de votre famille. Ça veut dire quoi? Vous parlez des névroses, des jalousies?
Je ne parle pas que de la mienne. Je parle de la mienne et j'essaie d'englober celle des autres. Ouais. Donc, je parle de mes parents, je parle de ma sœur, je parle des interactions familiales, de la culpabilité, de l'enfant préféré, de tout ça, quoi.
C'est entre famille, je vous aime et famille, je vous hais?
Oui, c'est plus famille, je vous aime. Je m'aperçois à la fin que j'ai une famille tout à fait normale et que, en fait, si j'en parle sur scène, c'est que comme ils sont loin, ça me permet de les retrouver tous les soirs, en fait, quand j'en parle. Donc voilà, c'est bourré de tendresse, en fait. C'est pas du tout méchant.
Mais en même temps, lorsque vous allez chez vos parents, ils vous font comprendre bien sûr que vous êtes chez vous, mais en fait c'est pas un hôtel non plus.
Ah mais je reste quand même chez eux parce que j'ai cette phrase qui revient: Mathieu, t'es pas à l'hôtel. Et c'est vrai qu'à l'hôtel, rarement quand je me douche, le directeur de l'hôtel rentre dans la salle de bain sans prévenir pour me donner une serviette propre. Mais là, je déconne pas, il y a ma mère qui regarde l'émission et on peut la voir. Et là, elle vient de m'envoyer un message pour me dire: arrête de bouger sur ta chaise.
C'est pas vrai.
Ma mère est en face de moi.
Oui, ben
maman,
oui.
Fous-moi la paix. C'est samedi, là. D'accord? Je t'appelle tout à l'heure.
C'est vrai que vous pouvez regarder ça en direct sur RTL.fr comme la maman
de Mathieu. La maman de Mathieu.
Vos parents commencent à vieillir un peu. Surtout votre père.
Mon père, il commence à. Non seulement il se parle tout seul, mais il se répond tout seul. Tu sais, il se lève, il fait quel temps? Il fait beau, je vais mettre un pull. Il est autonome au niveau. Et puis il s'endort n'importe où avec cette tête. Tu sais, on dirait qu'il va mourir comme ça et comme ça. Et là, et quand je le réveille, il dit: non, je dors pas. Je dis: papa, laisse-moi le volant. Donc.
il doit être quand même sacrément content de votre réussite, de votre papa.
Mon père, il est très heureux. Mon père, sa passion, c'est d'être VIP. Il a ce truc-là. Il veut être sur scène, en fait. Ah. Et quand je suis en tournée, il m'accompagne. Mais pour lui, c'est lui qui est sur scène. Il a l'impression d'être. Il m'attend dans les loges souvent, et quand je sors de scène, il me regarde et me fait: on a été beau. J'ai dit: t'as mangé des cacahuètes, papa. C'est moi qui étais sur scène. Mais c'est comme ça. Il vit le truc. Ouais, je trouve ça pas mal.
C'est vraiment sympa. Et il y a votre sœur. Votre sœur, c'est la préférée. C'est la chouchou.
C'est la. Moi, je l'appelle petite conne, mais je l'aime. Mais oui, c'est la préférée. C'est la petite dernière. On lui pardonne tout. Elle habite à 5 minutes de chez mes parents. Elle y vient deux fois par mois. Elle reste en warning. Mais c'est comme ça, et on lui pardonne tout, il n'y a pas de souci. C'est ta sœur, c'est pas grave, c'est ta sœur.
Ouais, elle a tous les droits.
Elle a tous les droits.
Il y a beaucoup d'amour, effectivement, dans ce que vous nous dites, effectivement, avec ces extraits. Pourquoi parce que, bon, quand on fait du one-man show, du stand-up, voilà, on peut parler de tout, de la vie, etc. Parler de la famille, et notamment de la sienne, c'est quand même assez intime.
Ouais, mais c'est venu naturellement, en fait.
Parce qu'il y a une grosse part de vérité dans ce que
tout
vous
dites. Tout est vrai.
Le coup des warnings est peut-être pas
mais
vrai.
Mais c'est la vérité. Des fois, elle s'arrête pas, elle passe en klaxonnant, et ma mère est à la fenêtre, elle fait et voilà, ça y est. Et elle a été. Ta sœur est présente, elle est avec nous. Elle est comme ça. C'est fou. Non, mais tout est vrai dans le spectacle. Mmh. Mais en fait, le sujet de la famille s'est imposé de lui-même. Je suis monté sur scène juste après le deuxième spectacle et j'ai parlé de ça. Et on s'est dit avec Kader Aoun, avec qui on écrit et qui produit le spectacle, on s'est dit c'est naturel d'en parler et on s'est lancé là-dedans.
Un spectacle familial jusqu'au 25 avril au Théâtre de l'Œuvre. On va avoir évidemment l'occasion d'en reparler d'ici 13h30, mais d'abord, on embarque. 1980, il y a beaucoup de passagers malades dans l'avion.
Oh, excusez-moi de vous déranger, mais il paraît que vous êtes médecin.
En effet.
Nous avons quelques passagers qui se sentent mal. Pourriez-vous venir les voir?
Oui, volontiers. Tirez la langue.
Dites au commandant de prévoir un atterrissage forcé. Cette femme doit être transportée dans un hôpital.
Un hôpital? Mais qu'est-ce que c'est?
C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin, pour le moment, c'est pas le sujet. Dites au commandant que j'ai à lui parler.
Tout de suite.
C'est un petit bijou, ça.
C'est génial. C'est les,
y a-t-il un pilote dans l'avion?
Ouais, c'est les As Zucker, Abraham Zucker, ouais. Qui ont fait les Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic? Les hot shots, les top secrets. Et quand je passais mes examens et que je stressais, la veille, je me regardais toujours ce genre de film-là. Ça me permettait de dire, vas-y, Anna, on va se marrer un petit peu. Je trouve ça, c'est des génies, ces gens-là. Mais qu'est-ce que ça vieillit pas, en plus?
Non, c'est vrai que c'est impeccable. On va marquer une pause, rappeler l'actualité, préparez-vous à être Monsieur Météo, et puis dans un instant, on va recevoir votre invité, Vincent Badian. Ah. On va parler de lui, mais aussi peut-être de vos racines arméniennes. Tiens. Allez, à tout de suite sur RTL, il va être 13h.
Le journal inattendu sur RTL, avec Mathieu Madénian et Vincent Parisot.
Il est 13h01, il est bavard, Madénian.
Le journal inattendu de Mathieu Madénian.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Actualité dominée par le premier décès en France d'un malade atteint du coronavirus. Il s'agit même du premier en dehors du continent asiatique. Cet homme de 80 ans, un touriste chinois, était en soins à l'hôpital Bichat. En Chine, le bilan de l'épidémie s'élève maintenant à 1500 morts. Des mesures de restriction ont été annoncées à Pékin. Toute personne qui arrive de l'extérieur dans la capitale chinoise doit s'auto-imposer une quarantaine de 2 semaines à domicile ou à l'hôtel sous peine de sanctions. Les ténors de La République En Marche réunis au siège de leur parti pour tenter de désigner une nouvelle tête de liste à Paris après le retrait de Benjamin Griveaux. Il faut réfléchir collectivement et surtout rapidement, explique Stanislas Guérini, le secrétaire général de LREM. L'objectif est d'avoir un candidat avant lundi. Le premier tour des municipales, c'est dans un mois. Une mauvaise nouvelle pour Airbus. Washington annonce un relèvement de 10 à 15% des taxes douanières sur les avions importés d'Europe. Beaucoup de monde sur les routes, notamment en montagne, pour le premier chassé-croisé des vacances d'hiver. Mais attention, arriver en haut risque de mauvaises surprises. Parce que dans de nombreuses stations, les remontées mécaniques fonctionnent au ralenti en raison d'une grève des saisonniers. Le foot, victoire de Monaco hier soir. Le PSG joue à Amiens à 17h30 sans ses stars Neymar et Mbappé. Et puis alors pour la météo, c'est à vous de jouer, Monsieur Madénian. Vous êtes Monsieur Météo.
Alors, il fera beau cet après-midi dans le sud et l'est du pays, avec tout au plus quelques nuages inoffensifs dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc, maman, ça va. Mmh. Le nord-ouest, en revanche, va connaître un temps nuageux avec des pluies de la Bretagne au Cotentin et des vents forts, aussi bien en bord de mer que dans les terres. Les températures iront de 12 à 21 degrés des Ardennes aux Pyrénées. Mmh. Il fera 15 degrés à Paris, Rennes et Grenoble et 14 degrés à Saleil. C'est le village dans lequel j'ai grandi. Donc, si mon père m'écoute, tu peux aller jouer aux boules, c'est cool.
Ouais, 15 degrés pour les boules.
15 degrés, ça veut dire que 15 degrés sous 15, abri, ça veut dire qu'il fait 27 chez nous.
Ah ouais, c'est ça.
Au soleil, c'est ça.
Ah ouais, c'est bien.
Quelle chance ils ont.
Ça vous manque?
Ah oui, bien sûr.
Ouais. Quand est-ce que vous y retournez voir
Dès que je peux. Déjà, toutes les vacances au mois d'août, je suis dans le sud, je suis chez eux. Ouais. Hein, obligé, sinon, je suis déshérité.
Vous arrivez chez papa et maman
J'ai ma chambre d'ado intacte. Ils ont gardé
des posters.
Il y a des photos de moi sur le mur. J'ai 8 ans partout. J'ai l'impression d'entrer dans la chambre d'un enfant qui a été enlevé. Et je suis l'inspecteur du FBI. Et ma mère me regarde comme ça. Il aurait eu 43 ans. Je dis, madame, on va le retrouver, vous inquiétez pas. Mais, j'y retourne. Ouais.
Le journal inattendu sur RTL avec Mathieu Madénian et Vincent Parisot.
Comment savoir où je vais si je ne sais pas d'où je viens? Où est passé mon passé? Je recherche sans fin le début d'un chemin.
Là, je crois qu'on a convoqué vos racines arméniennes et votre ami Vincent Badian qui nous a rejoint. Pourquoi avoir invité Vincent Badian?
Déjà, c'est un ami. Et puis, moi je suis toujours admiratif des gens qui font des trucs que je sais pas faire. Si je suis là actuellement devant vous en train de parler, c'est que bon, j'ai un peu de talent, mais je bosse beaucoup. Je suis un bosseur, moi. Il y a des gens qui sont talentueux naturellement. Vincent fait partie de ces gens-là. C'est quelqu'un qui arrive à mettre des mots sur des musiques, à composer des chansons. Cette chanson, c'est une des plus belles chansons qui a été écrite sur les génocides en général. Enfin, je trouve ce mec talentueux et outre l'amitié que je lui porte, je trouve son travail fantastique.
La chanson, ça ça s'appelle Je suis une tombe. Et donc, avec Diane Minassian qu'on a entendu, Vincent Baghian. Bonjour Vincent Baghian.
Bonjour Vincent.
Et merci, oui. Bonjour Vincent.
Bonjour Vincent.
Merci d'être avec nous. On va parler de vous, même si c'est pas forcément en tant qu'interprète, parce que vous n'avez pas fait d'album depuis 2007. Depuis, vous produisez et puis vous avez surtout écrit pour des comédies musicales qui ont cartonné. Mozart, 1789, Miss Tinguette, Le Rouge et le Noir.
Ah ouais, la moitié du PIB arménien, c'est lui. Hein.
c'est incroyable. Comment vous en êtes arrivé finalement de l'interprétation à l'écriture pour les comédies musicales?
Moi, c'est très simple, c'est qu'on m'a appelé.
Oui.
On m'a appelé pour écrire des chansons. Moi, je n'étais pas très amateur de comédie musicale. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Dovatia.
Ouais.
Et qui m'a convaincu de travailler avec lui. Et j'ai pris un pied incroyable à faire ça. Et il se trouve que ces comédies musicales maintenant tournent dans le monde entier. Et que ça m'a pris tout mon temps.
Ouais. Et donc, et vous n'avez pas aujourd'hui l'intention de refaire un album?
Si, j'ai refait un album. Que j'ai enregistré, qui dort chez moi depuis un an et demi.
Oui.
Et vu le marché actuel de la musique, je n'ose le faire écouter à personne, parce qu'on va me dire non, mais la mode, c'est l'urbain. Et donc, je préfère pas entendre cette phrase. Donc, je le fais écouter
c'est,
à.
C'est vraiment.
Vous voulez dire, l'album, c'est l'urbain, l'album, c'est le hip-hop, le rap, c'est
voilà,
ça?
Voilà, ouais. Voilà.
Mais il faut que tu aies c'est les deux précédents albums, ils sont incroyables. Ouais. Vraiment. C'est un vrai, pour le coup, c'est une personne qui raconte des histoires en chantant. Et ouais. Je trouve ça génial.
Il y avait une histoire qui était assez intéressante. Dans le dernier album en 2007, Ce soir c'est moi qui fais la fille.
Pourquoi les talons aiguilles? C'est toujours pour toi. Ce soir c'est moi qui fais la fille. Ça t'apprendra. Je veux voir dans tes yeux qui brillent que tu es dans de beaux draps, que tes pensées partent en vrille, voulant tout à la fois. À la fois que je me déshabille, mais que je ne le fasse pas, sentir ton cœur qui vacille quand je garde mes bas.
Déjà, vous jouiez sur les genres. Hein. C'était en 2007, c'était peut-être pas encore tout à fait à la mode. Elle a étonné cette chanson à l'époque, Ce soir c'est moi qui fais la fille et je garde mes bas.
Oui, elle a étonné. Je me suis fait aussi un petit peu insulter.
Ah oui.
Oui, j'ai reçu parce que j'avais un numéro de téléphone. J'avais fait une chanson avec mon numéro de téléphone.
Exact.
Et je recevais des messages. Alors parfois des compliments, mais beaucoup d'insultes. Et je me suis dit que donc cette chanson était vraiment nécessaire. S'il y avait des gens qui en étaient encore à insulter quand on disait ce soir c'est moi qui fais la fille.
En fait, c'est le seul mec qui donne son numéro de téléphone dans ses albums.
Et en même temps, c'est dangereux.
Non
quand
mais
même.
À l'époque, il disait vas-y, on donne le numéro.
Alors on a parlé effectivement de cet album des opéras, des comédies musicales que vous avez écrites. Et puis il y a votre copine Zazie, hein, parce que c'est un vrai tandem avec Zazie.
Bah, c'est une histoire d'amitié qui date avant qu'elle fasse des disques. Donc ça peut pas être douteux.
Non, effectivement. Vous avez par exemple co-écrit Seul en cirque pour l'association Seul en cirque.
Ouais.
Et puis du coup, on a cherché, ça nous avait valu quand même un petit duo normand à la télé, on avait adoré. Ben ça met de bonne humeur, puis en plus on va avoir ça dans la tête toute la journée. Ah, maintenant.
C'est pire que la chanson, tu sais, dans le truc des poupées de Disney. Non, ce truc-là.
Vous produisez actuellement une artiste qui s'appelle Marjolaine Piémont et vous teniez à nous la faire découvrir. On va écouter deux extraits. Tiens, tout d'abord cette chanson au titre engageant, Je suis bonne.
Je suis la souris qui sourit pour valoriser son mari. Mais quand vient le soir, je reprends espoir en lisant Simone de Beauvoir. Je suis bonne.
Je suis bonne, extrait de l'album Sans le superflu. Elle s'appelle donc Marjolaine Piémont. Vous êtes son producteur. Parlez-nous d'elle parce que j'ai l'impression qu'elle affiche son féminisme clairement, mais en toute légèreté.
Oui, elle a un physique qui contraste avec ce qu'elle raconte. Elle peut se permettre de dire beaucoup de choses que les femmes ne disent pas.
Mmh.
Et puis, je trouvais ça tout à fait anormal qu'elle ait pas sa place. Je suis allé voir des maisons de disques en essayant de faire en sorte qu'elle signe.
Ouais.
Et personne ne voulait parce qu'on lui disait, il faut de l'urbain.
Il faut de la musique urbaine.
Il faut de la musique urbaine.
C'est vraiment ce qu'on vous répond aujourd'hui dans les maisons de disques. Ouais.
Mais là, ce qui est marrant, c'est qu'elle commence à tourner en radio. Elle commence à rentrer en radio sans maison de disques. Et elle a déjà fait fait une centaine de concerts avec cet album et il y a des gens qui sont en maison de disques qui l'envient.
Bon, bon, en tout cas, là, j'ai elle est sur RTL. Avec un autre extrait, tiens.
Je touche du bout des doigts mon bonheur quand ma main se pose dans la leur. J'imagine qu'ils s'en sont servis pour caresser leur anatomie. C'est tout comme si je gagnais la carte de membre, qu'ils me donnent le droit d'entrer dans leur chambre.
Effectivement, elle ne se cache pas, elle dit les choses clairement, elle est même un petit peu coquine.
Elle est hyper coquine et en concert c'est formidable parce que quand elle chante ça en serrant vraiment la main des messieurs, ouais. Ils font une drôle de tête.
Ah oui, j'imagine. Marjolaine Piémont, donc vous la connaissiez, Mathieu?
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Par votre copain.
Ouais, exact, oui. Mmh. C'est Vincent qui m'a fait découvrir. Ouais. Mmh.
Comment ça se passe l'amitié avec Mathieu Madénian? Vincent.
Alors moi je redoute les comiques parce que vous savez souvent les comiques ils essayent d'être comiques en dehors de la scène et l'avantage avec Mathieu c'est que c'est quelqu'un qui est très drôle sur scène.
Et qui est pas drôle dans la vie.
Et qui dans la vie il peut être drôle mais il écoute les gens, il ouais. essaye pas de continuer le spectacle en dehors de la scène ouais. et donc ça permet une vraie relation et je connais quelques gens connus et je peux vous dire que c'est rare.
Parce qu'en général ils essayent de poursuivre, ils sont en dehors de la scène, le personnage qu'ils interprètent.
Bah, y a beaucoup de vedettes qui veulent continuer à être vedettes dès qu'ils sont sortis de scène.
Ouais.
Des noms, j'en ai tellement.
Et Mathieu, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui écoute beaucoup. Et sur scène, ça donne encore plus de relief à ce qu'il fait sur scène, parce que sur scène, il est transformé, il est exceptionnel. C'est-à-dire que lui, il est peut-être épaté par ce que je fais, mais moi, voir quelqu'un qui arrive à maintenir l'attention pendant une heure et demie, sans artifice, sans rien, sans instrument, à parler et on ne lâche pas, moi, il me fait penser à Blanche Gardin en masculin.
C'est gentil.
Bah ça, c'est plutôt sympa.
C'est sympa. Ouais.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu saluer Mathieu Madénian, Vincent Baguian, Marjolaine Piémont. Donc, c'est l'artiste que vous produisez. Et puis, n'hésitez pas à le sortir, quand même, cet album qui dort chez vous.
Il y a pas ah non, mais il faut
y a pas que la musique urbaine dans la vie, quand même. Tiens, avant de marquer une pause, Cinéculte, c'est lui qui l'a choisi. C'est Vincent qui l'a choisi. Le bon, la brute et le truand, parce que le monde se divise en deux.
Le monde se divise en deux, mon ami. Ceux qui ont la corde au cou et ceux qui la leur coupent. Oui, seulement celui qui a la corde au cou, c'est moi. Moi, je risque gros. C'est pourquoi la prochaine fois, je veux plus de la moitié. Oui, tu as la corde au cou, mais moi, je tire. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Fuyez, il aurait pu me tuer. Quand l'as-tu déchargé?
Cette nuit. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Ah, c'est culte, ça, quand même.
Mais tout est culte. Les dialogues, la musique est culte. Tout ouais. est parfait, en fait. Mais c'est mon père, tu vois, là, pour le coup, tu vois, c'est mon père qui m'a fait aimer ce genre de film. Mmh. On regardait ces films-là et après, on allait faire les duels. Mmh. Comme les vrais duels.
Les vrais duels?
Ouais.
Ah, bah, on va en faire un duel juste après la pub.
Ça marche.
Mathieu Madénian. Vincent Parisot. Le journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL, avec Mathieu Madénian et Vincent Parisot.
J'avais le sacré cœur gros comme ça. Et j'avais le sacré cœur qui était tout bas. Je ne sais même pas pourquoi. Aux passants s'ils allaient être heureux. Un court instant, mais les touristes ne sont pas tristes. Des sourires gentils.
Oh là là.
Il chante en direct.
Ah merde, c'est en direct.
Mais bien sûr, okay. Mathieu Madénian, vous avez une très belle voix, il faudra peut-être vous mettre à la chanson.
Au comique.
Mano Solo, Sacré Cœur, vous connaissez le texte par cœur.
Oui, je suis absolument fan de Mano Solo. Et j'ai eu la chance, je rencontrer Cabu, qui était son fils. Ouais. Et j'ai jamais croisé Mano Solo, puisqu'il est mort très tôt du sida. Mais je trouve que ce mec-là a une voix, a des mélodies et a des textes incroyable. Donc je suis un drogué de Mano Solo.
Non, vous avez parlé de Cabu. Vous continuez votre carte postale dans Charlie.
Ouais. Ouais.
On a envie de se demander cet attentat il y a 5 ans, cette attaque terroriste où plusieurs de vos amis ont perdu la vie. On sait que vous auriez pu être à leur place. Ça a été une question
à une heure près. Ouais. Je devais aller à cette conférence de rédaction. Ouais.
Comment vous en êtes remis? Est-ce que vous portez encore les traces?
Je pense qu'on s'en remet pas, parce que c'est tellement un événement qui sort de l'ordinaire et qui est dramatique. Parce que moi, j'ai perdu des gens avec qui je travaillais et que je côtoyais, que j'aimais beaucoup. On s'en remet pas. On continue à travailler. Je pense que je fais moins de projets à long terme. Maintenant, je fais des projets à moyen terme, court terme. Je
me dis quand on aurait pu y être, que ça a été une question de minutes, enfin une heure, il y a une part de culpabilité.
C'est pas de la culpabilité, c'est une part de je comprends pas ce qui s'est passé en fait. Il y a des mots que je me souviens d'appeler mes parents pour leur dire je suis en vie. Ça n'a aucun sens en fait. Et je me suis vu en train d'appeler mes parents pour leur dire tout va bien, je suis pas mort, je suis en vie. Donc il y a des mots comme ça qui resteront dans ma tête toute ma vie. Maintenant, non, je culpabilise pas, mais c'est sûr que continuer à bosser et à collaborer pour Charlie, c'est un moyen pour moi de d'être toujours là et de montrer que je continue quoi.
Et de leur envoyer une carte postale. Donc
exactement. J'ai commencé comme ça et je trouve que la carte postale c'est la forme la mieux pour leur parler.
Allez, on va se détendre un peu quand même.
Yes! Oh là là!
Ah bah oui! Ah là, ça met des frissons, ça! Hein.
C'est le plus beau club du monde! À casser qu'on va s'en apercevoir de ça! Le plus beau public, c'est le public marseillais! Même quand on perd, on est beau!
C'est vrai que ce stade, il est magnifique, ce stade Vélodrome! Donc, toujours fan de l'OM, j'ai même pas besoin de vous poser la question!
On s'y croise quelquefois!
C'est vrai!
Et on fait souvent la gueule à la fin des matchs!
Mais oui, parce qu'à chaque fois qu'on y va, c'est pas le résultat!
C'est pas possible, bon. Ça!
Tiens, justement, il y a une question pour vous qui vous est posée par l'invité de la semaine dernière. C'est l'écrivain Denis Tillinac qui était à votre place.
Bonjour Mathieu, c'est Denis Tillinac. Oui, j'ai une question à vous poser. On me dit que vous êtes un grand supporter de l'OM. Alors moi, j'ai mes fils qui est un fan de l'OM, un autre qui est fan du PSG, je suis totalement neutre. Je voudrais savoir pourquoi l'OM, avec le pognon qu'a son président américain, est depuis des années à la traîne du PSG. Il y a quelque chose de mystérieux quand même. Bon. Éclairez ma lanterne.
Alors, vous allez le faire, vous allez lui répondre, mais avant, on peut quand même se mettre quelques secondes du duo que vous formiez il y a quelques temps avec Thomas VDB. Ouais.
Je suis un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Ce week-end, Nice-Marseille, c'est le premier match du propriétaire, monsieur McCourt. Il est américain. Bienvenue à Marseille, monsieur McCourt.
Welcome to Marseille, yes. Monsieur McCourt. Do you drink the pastagar on the cannebière?
Alors, pour vous aider à bien vous intégrer à l'Olympique de Marseille, avec Tom, on a préparé une petite liste de mots qui vont vous être utiles en conférence de presse. Donc, Tom, tu traduis, d'accord? On y va. Défaite. Humiliation.
Humiliation.
Bernard Tapie.
Bernard Carpet.
Jean-Claude Godin.
Pablo Escobar.
Bon, c'est bien sûr de l'humour, j'espère que vous n'aurez jamais à utiliser ces mots-là. En tout cas, bienvenue à l'OM et bonne chance.
Welcome to the OM and Happy New Year.
Ça, c'était des bons moments avec
VDB. Ouais, très, très bons moments. C'est bien marré.
Je sais pas si Jean-Claude Godin a apprécié
Pablo Escobar.
La comparaison.
C'est rigolo. Je suis sûr qu'il a apprécié.
Il a raison, Tillinac. Est-ce que le bilan de McCourt est décevant ou pas?
On a fait quand même une finale de Coupe européenne. C'est pas mal. Là, on va être champion de France. Qui rêve un peu, on va rattraper Paris. Non, il n'est pas décevant, mais on va voir ce qui va se passer. Moi je suis. Il faut qu'il mette encore un peu d'argent, s'il m'écoute, un peu d'argent et qu'on ait un bel attaquant encore. Deux attaquants devant, ça serait bien. Ouais. Et après, on pourra.
Donc, il faut encore faire des chèques.
Ben là, si l'année prochaine on a la Champions League, on est un peu embêté là. Hein. Qui on va faire jouer? Mon père, il est 60. Il n'est pas prêt, hein, mon père.
Donc, il faut un grand attaquant. Mais pourtant, il y en a un qui est venu d'Argentine.
Ouais, mais il n'est pas servi. Vous savez très bien.
Mais je sais très bien, mais moi, je fais ce que.
On le met en pointe. Qui c'est qui lui donne les ballons? Il a pas les ballons. On peut mettre n'importe qui devant.
Pardon, excusez-moi.
Ouais, bah oui. Bon, on voit en tout cas que la passion est toujours là pour l'Olympique de Marseille. Je crois que vous serez bientôt au stade.
Il y a Marseille-PSG qui arrive là, donc il va falloir se préparer. Donc on se verra au stade et on va pleurer ensemble.
Bon voilà, il y a le chef du service des sports d'RTL qui est là, qui nous souligne au passage qu'il y a beaucoup de dettes, hein, jusqu'à 80 millions d'euros. Mais là, les dettes, on n'en parle pas.
Oui, mais RTL va rembourser.
Mais oui, bien sûr.
Voilà, c'est réglé.
On va faire un chèque dans un instant. Ne partez pas, restez avec nous, Mathieu, parce que dans un instant, il y a une surprise pour vous.
RTL. Le journal inattendu sur RTL, avec Mathieu Madénian et Vincent Parizeau.
C'est entièrement de ma faute, sache-le ça. Si nous deux, ça chancelle souvent.
Non, ce n'est pas de ta faute, sache-le ça. Si nous deux, ça tend de temps en temps.
J'aimerais tant que ça marche. Que je ne te dis pas.
Il s'appelle Ben Mazoué et il est dans votre playlist. J'ai l'impression que vous adorez Ben Mazoué.
Ah oui, j'ai découvert ce chanteur il n'y a pas très longtemps et j'arrête pas de me le passer en boucle. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il a des textes qui me touchent. Il a un texte sur la mort qui est incroyable. C'est des mecs talentueux en fait, tout simplement. Donc,
mais vous aimez beaucoup la chanson à texte.
Ben ouais, moi je suis cette génération-là, ces gens qui allument la radio, qui écoutent des CD et qui lisent les paroles en même temps, fait. Ouais.
Des vieux, quoi.
Ouais, mais je crois que c'est ça, en fait, faut arrêter de me faire... J'aime bien certains... Mais Aurel San, par exemple, c'est du texte, hein, donc c'est pas...
Alors, vous nous avez dit que vous allez souvent voir vos parents du côté de Perpignan.
Ouais.
Et on a un invité qui est au bout du fil, et lui aussi, il vient souvent du côté de Perpignan. Peut-être qu'il connaît vos parents ou pas, je sais pas. Vous avez une idée ?
Non.
Vous logez chez lui le vendredi et le samedi soir. Bonjour François-Xavier de Maison.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que vous allez souvent à Perpignan, François-Xavier ?
Ben oui, de plus en plus, puisque ma femme est de là-bas, en fait. Elle est d'un petit village à côté de celui de Mathieu.
Exact, voilà. Elle habite à Thuir. Ça me fait plaisir, tu vas bien ?
Ben ça va bien et toi ?
Oh, ça va, qu'est-ce qu'on est bien dans ton théâtre, sans déconner.
Ah, oui,
il faut y aller parce que, bon, le spectacle est sympa, mais il y a un bar avec du vin et de la charcuterie. Mais allez-y, c'est lui qui ramène toutes les bouteilles. Et en plus, je crois que c'est gratuit ce soir, open bar jusqu'à 23h. Allez-y.
Non, faut pas dire ça.
Le Théâtre de l'Œuf, c'est vrai que c'est votre théâtre. Vous en êtes propriétaire depuis quelques années. Pourquoi ça, François-Xavier ?
On a eu l'opportunité avec Benoît Lavigne, mon associé, de reprendre la direction de ce théâtre.
Ouais.
Et ça fait 4 ans et demi que c'est le bonheur, qu'on réussit à mélanger théâtre, stand-up, musique, et c'est vrai qu'il y a un joli bar avec des très très bons produits de nos terroirs qui reste une priorité. Voilà.
Exactement.
Et quand vous allez à Perpignan, vous allez faire de temps en temps la fête avec Mathieu ?
C'est moi qui vais chez lui faire la fête.
Ah ouais.
Il a le sens de la fête, il a le sens de l'amitié, il a le sens. C'est un bon vivant, mais dans le sens le plus noble du terme. C'est un
pas
bon
dans le
vivant.
Sens gros du terme.
Là, on va parler du collège. Cholestérol, je sens que ça va nous énerver les uns et les autres. François-Xavier, que se passe-t-il pour vous en ce moment ?
Ben écoutez, dans quelques jours, je démarre au Théâtre Antoine avec François Berléand, par le bout du nez.
Oui.
La nouvelle pièce des auteurs du prénom. Et puis, le 25 mars, j'ai le film Divorce Club de Michael Youn avec Arnaud Ducret qui sort.
Donc une actualité bien chargée quand même.
Voilà. Ouais, puis, toujours ce Théâtre de l'Œuvre qui me rend très très heureux et dont on est très très fiers, et Mathieu, son nouveau spectacle est formidable.
C'est vrai.
On rit du début jusqu'à la fin, il a un sens du public qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il sait rebondir sur ce qui se passe dans la salle, il a une vraie complicité avec le public, et je trouve que c'est un des humoristes qui fait ça le mieux, qui sait vraiment jouer avec le public.
Ah, c'est gentil. Tu dis ça parce que j'ai pas payé ma note au bar, c'est ça ?
Oui, c'est d'ailleurs, elle commence à être lourde. Hein.
Promis, je règle ça ce soir.
Merci beaucoup, François-Xavier de Maison.
Merci beaucoup. Bisous.
Ciao, l'ami.
Spectacle familial donc, que vous abritez chez vous, François-Xavier, au Théâtre de l'Œuvre. Donc, c'est les vendredis et les samedis jusqu'à la fin du mois d'avril. Merci beaucoup, Mathieu Madénian, d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Hein.